Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment merveilleux que le Seigneur nous donne par sa grâce. Vous pouvez m'aider à accueillir celui qui est à ta gauche et à ta droite et dites à lui, bienvenue dans la présence de Dieu, la présence des assoiffés de sa présence. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, merci pour ce moment que tu nous donnes par ta grâce. Ce n'est pas au nom de la méritocratie, Seigneur, que je me tue du haut de cette chair. Mais je reconnais la grâce, Seigneur Père, qui m'est portée sur tes ailes. Merci, Seigneur, pour ce moment, cette gloire que tu as balisée, afin que nous soyons dans le sanctuaire, à la brèche, comme des sentinelles assoiffées, Seigneur Père, de toi. Fatigué de ce que le monde nous propose, qui n'a pas étaché notre soif, mais comme une biche soupire auprès des courants d'eau, alors nos âmes soupirent auprès de toi. Cher Saint-Esprit, nous t'aimons plus que tout. Nous te respectons plus que tout. Parce que tu manifestes ta présence là où tu es honoré. Ta parole déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je prie que tu passes par moi pour bénir ton peuple. Mais je prie aussi que tu me parles. Je ne suis pas seulement venu prêcher à mon frère et à ma sœur, mais je suis venu aussi afin que tu me prêches. Alors, bénis ces moments de partage et d'exhortation. Pour ta gloire, tu vas le faire. Et laisse qu'à la fin de ces moments de partage, que chacun dise « Oui, le Seigneur m'a parlé ». Nous te les prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je nous invite de lire la parole de Dieu. Nous allons lire trois portions d'écriture. Nous lisons d'abord le livre du prophète Joël, chapitre 2, à partir du 25e verset. Joël, chapitre 2. À partir du 25e verset, vous serez aussi en train de préparer Actes des Apôtres, chapitre 16, le 25e verset au 34e. Commençons donc la lecture avec Joël. La parole de Dieu déclare, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Chek, les Asil et les Gassam. » Ma grande armée que j'ai fait quoi? Église, on est là? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous les prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelqu'un peut répéter cette phrase, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur le serviteur et sur le servante. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit par au-dessus. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 et suivant. La parole de Dieu déclare, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient. J'aime ça, ils priaient. Et chantaient les louanges des dieux. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, non seulement toi, mais toi et ta famille. » Alléluia. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait écrit en Dieu. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu pour nous ces après-midi. Amen. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour la présence de chacun en ces lieux. Plus particulièrement, je bénis le nom de l'Éternel pour ma présence à ces lieux, une grâce. Je ne considère pas cela comme un acquis, mais c'est une marque de confiance de la part de Dieu. Lui, le Dieu de mon salut et lui, le Dieu de mon appel. Je bénis également le leadership de cette église pour cette marque de confiance ainsi que cette main d'association pour avoir permis que ça soit moi avec tous les autres serviteurs pour que nous puissions vaquer à la prière ensemble. Alléluia. Merci pour cette confiance et que Dieu bénisse nos serviteurs. Amen. Je bénis aussi la présence de chacun de nous. Bien-aimés, vous avez fait un beau choix d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je respecte votre présence. En dépit des activités, des occupations, vous avez résolu d'être dans le sanctuaire pour répondre à l'appel de Dieu. Quel est notre thème? Notre thème pour toute la semaine et que l'on m'a donné, c'est l'attachement et l'espérance au Dieu de la délivrance. L'attachement et l'espérance au Dieu de la délivrance. Et quant à notre exhortation aujourd'hui, nous allons partager un sujet intitulé « Prier au milieu des épreuves, ça perdre la foi ». Alléluia. Quand j'ai préparé cet enseignement, je me disais, waouh, quel beau thème. Prier au milieu des épreuves, ça perdre la foi. L'objectif que je poursuis dans cette exhortation, c'est d'amener chaque participant à pouvoir prier, à vaquer à la prière. Alléluia. En dépit des situations, au milieu du désert, je voudrais nous rappeler que c'est de notre devoir de pouvoir vaquer à la prière. Et donc, j'aurai 2 points à décortiquer. Je voudrais d'abord pâcher mon cœur pour nous amener à comprendre pourquoi nous devons prier. Parce qu'on m'a enseigné qu'à chaque fois que tu appelles les gens à vaquer à la prière, il faut d'abord les renseigner pourquoi ils doivent prier. Sinon, ils vont prier dans tous les sens. Il faut tracer les couloirs pourquoi nous venons prier. La deuxième des choses que je vais exploiter dans cet enseignement, je vais aussi maintenant tenter de nous amener à comprendre pourquoi nous devons être attachés à Dieu. Alléluia. Et à la fin, je crois que l'Esprit de Dieu nous aura déjà parlé suffisamment. Amen. J'ai 3 constats, bien-aimés frères et sœurs, avant de rentrer aussi au texte que nous venons de lire. 3 constats qui ont toujours habité mon cœur. Le premier constat, c'est de réaliser que ceux qui ont des problèmes, parfois, ils ne veulent pas prier. Ceux qui ont des problèmes, vous les rencontrerez, ils sont fatigués de la prière. La société au travers laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes, personne de nous ne peut dire qu'il est exempté de la souffrance. Et l'enseignement, à partir du dimanche, j'ai suivi le culte d'hier, l'homme de Dieu, et je respecte l'onction sur son ministère, il nous a rappelé que c'est très important de revenir dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Alléluia. Parce que oui, les problèmes sont là, mais il y a aussi la main de Dieu qui nous a secoués. Et Samuel pouvait dire, jusqu'ici, tu nous as secourus, nous pouvons t'appeler Ebenezer. Alléluia. Et alors, les problèmes que nous avons dans la vie ne doivent pas être des obstacles ou des raisons pour ne pas vaquer à la prière. Le deuxième constat, pour moi, c'est de constater que Jésus-Christ, non seulement il faisait la prière, mais il vivait la prière. Et ça, c'est très important. Dans sa double nature, lui étant que Dieu, ça pour ça Dieu, il a revêtu la chair. Jean chapitre 1, à partir du premier verset suivant, la parole faite chair. Il a revêtu la chair, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Mais comment celui qui est Dieu, il peut encore vaquer à la prière? Parce qu'il sait que la prière est vitale. Alléluia. Bien-aimé, tu peux négliger autre chose. Je t'exhorte de ne jamais négliger la prière. Là où toutes les méthodes ont échoué, nous devons marcher par la foi et vaquer à la prière. Alléluia. Quelqu'un qui disait, la prière ne rate jamais sa cible. Ce que tu as raté par l'intellect, ce que tu as raté par des stratégies, essaye les genoux, les magotologies. Parce qu'il y a Dieu qui écoute, non seulement il écoute, mais il exauce la prière. Alléluia. Et donc, nous ne devons pas être fatigués malgré les problèmes que nous avons. Nous devons vaquer à la prière. Mais dans les moments de prière, je vois Jésus-Christ. Il a fait toute la nuit en train de prier. Et il a un projet à faire de pouvoir élire les 12, choisir les 12, appeler les 12. Mais parmi ces 12-là, après une nuit de prière, je réalise que Jésus-Christ, il part quand même choisir les 11, mais il y a un 12e qu'on appelle Judas, après un moment de prière. Je me dis, c'est quel genre de prière qui a été faite? Vous savez, parfois nous voulons vivre l'exaucement à nos prières, mais nous ne voulons pas tenir compte aussi de l'opposition qui nous attend même après la prière. Jésus-Christ, dans sa souveraineté, il a vaqué à la prière, mais il a quand même choisi Judas parce qu'il savait que Judas est nécessaire aussi pour l'accomplissement de l'œuvre salvatrice. Alléluia. Je suis en train de poser les bases, je sais que vous allez me comprendre après. Amen. Parce que nous voulons marcher avec Dieu, mais sans obstacle. Nous voulons qu'à la sortie de 14 jours de prière, que nous ne puissions pas rencontrer des problèmes. Mais chaque fois qu'on quitte la montagne pour descendre dans la vallée, on doit maintenant s'attendre à exercer le don de la foi qui a été nourri à la montagne. Amen. Le troisième constat que j'ai fait, bien-aimé, c'est le constat que je trouve en Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 17e. Nous trouvons ici Jésus-Christ qui monte à Jérusalem et il monte sous un rythme de louange. Hosanna, Hosanna, au fils de David. C'est le roi qui entre. Mais je réalise que le même Dieu, le Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, il entre aussi avec les larmes. Et quand il arrive au temple, il rencontre le temple est déjà envahi. Le temple qui est destiné pour autre chose, mais celui est converti à autre chose. Et je suis crié aux paroles que Jésus-Christ va formuler et à son attitude. Il va bouleverser, il va libérer le pigeon qui était là. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, ma maison sera appelée maison de quoi? Maison de prière. Bien-aimé, est-ce qu'il a manqué la prédication dans le temple? Les pharisiens sont forts à ce domaine. Depuis longtemps, ils ont appris la loi et ils sont forts à ce domaine. Mais ils rencontrent une substance, ce qui manque, c'est la prière. Et nous avons consacré ces 14 semaines comme étant 14 jours de jeûne et de prière. Bien-aimés, ce qui manque à l'église de mon pays, ce n'est pas nécessairement la bonne prédication. Ce qui manque à l'église de mon pays, ce n'est pas un service d'accueil bien rangé. Ce n'est pas un décor bien taillé. Mais où est la prière? Parce que c'est ce que Christ va réclamer. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Parce qu'il a trouvé tout et là. Les commerces qui se faisaient là, c'était pour faciliter les gens à offrir, à faire le culte. Mais en dépit de toutes ces choses, il rencontre que la prière n'est plus au rendez-vous. Voici quelques bases que je pose, bien-aimés. Je vais revenir à nos textes. La première base que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est quoi? Le diable, quand il vise à détruire une église, il s'attaque principalement à la vie des prières. Alléluia. Je parle à des intercesseurs. Moi, j'ai vu ma vie dans l'intercession, je sais de quoi je parle. Quand le diable vise à agenouiller une église, il peut laisser d'autres domaines stables. Mais il va viser la vie des prières. Parce que si la vie des prières tient debout, alors tous les domaines de l'église vont tenir aussi ferme. Quand le diable vise à détruire un ministère, il s'attaque à la vie des prières. Et ça fait très mal de rencontrer nos prêtres serviteurs. On est précipité à partager des révélations, à partager des vérités. Mais quelle est la qualité de nos vies de prières? Et le diable est stratège, il passe par la ruse. Il a hyper occupé le serviteur. On n'a plus le temps de vaquer à la prière. Et même quand on prie pour les autres, on n'a plus le temps de la retraite personnelle. Une vie d'intimité avec Dieu. Bien-aimés, rassurons-nous que la vie des prières, nous l'accomplissons parce que ça, c'est la substance, c'est pour nous amener à tenir ferme devant les tentations, devant les obstacles. Jésus-Christ pouvait dire, vaquez à la prière pour ne pas tomber à tentation. Amen. Quand la souffrance augmente, frères et sœurs, augmente la vie des prières. Ce n'est pas quand la souffrance s'augmente, il faut alors baisser la prière. Quand la souffrance augmente, nous devons augmenter la prière. Et vous savez, dans la vie, Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset et suivant, la parole de Dieu déclare, il y a état pour tout. Dans la vie, il n'y a pas que, la vie n'est pas rectiligne. Il y a des vallées et des montagnes. Il y a des fois dans la vie, nous nous sentons agenouillés, terrassés par la vie. Nous nous sentons perdre même cette soif-là de continuer à vivre. Et c'est dans ces moments que nous devons nous rassurer que nous augmentons aussi la vie des prières. Quand la souffrance augmente, nous devons nous rassurer que c'est maintenant le moment meilleur pour vaquer à la prière. Quand nous lisons Exode, le 14e chapitre que l'homme de Dieu nous a lu à partir du dimanche et hier, nous rencontrons Dieu lui-même autorisé le peuple de quitter l'Égypte pour le désert. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu peut permettre à son peuple de quitter l'esclavage encore pour le désert. Dieu ne nous permet pas de quitter l'Égypte pour le désert, pour nous tuer dans le désert. Mais Dieu permet que nous quittions l'Égypte afin de faire une expérience, afin qu'il se révèle à nous. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu c'est pédagogue et quand il veut éduquer son peuple, parfois il passe par la souffrance, par des moments de souffrance. Dieu sanctifie son peuple par la souffrance. Et si ça dépendait de vous, de moi, de pouvoir choisir entre la joie et la souffrance, qui pouvait choisir la souffrance? Mais Dieu c'est pédagogue, parfois sa méthodologie, il passe par la souffrance. Je ne refuse pas, nous devons être équilibrés. Il passe aussi par des moments de joie. Alléluia. Voilà pourquoi la souffrance au travers laquelle nous passons, nous traversons, ça ne doit pas être exigé pour nous de renier la foi et de ne pas vaquer à la prière. Toute souffrance ne vient pas forcément nous tuer. Il y a d'autres souffrances qui sont des appels pour nous approcher, nous rapprocher davantage de Dieu. Toute souffrance n'ont pas comme objectif de nous tuer. Mais parfois, c'est dans des moments de souffrance que d'autres ont développé ces ailes de la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ne prieront pas que si ce n'est pas la souffrance. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres qui prient quand la joie est là. Alors la prière n'est pas une farce, mais la prière c'est une force. Je répète, la prière n'est pas une farce, mais la prière, c'est une force. Pourquoi la prière n'est pas une farce? Parce que le plus souvent, quand on voit des intercesseurs, une maman qui aime la prière, qui aime vaquer à la prière, on se dit, si elle va qu'on va napoter à wakati. Ce sont des ratés. Ils n'ont rien à faire. Bien aimé, ce n'est pas qu'on manque à faire. Mais nous n'avons que Christ. Alléluia. Et la présence de Dieu. David pouvait dire, une journée dans ta présence vaut 1000 journées passées, vaut 1000 ans passés en dehors de ta présence. Voilà, nous devons aimer la prière. La prière n'est pas une farce, mais c'est une force. Un intercesseur indiscipliné, il peut être détruit par un sorcier, une sorcière disciplinée. Et parfois, les intercesseurs sont dans l'intercession, mais indisciplinés. Bien-aimés, le diable n'a pas peur de nos prières, mais il a peur de nos qualités de vie. Alléluia. Nous devons prier jusqu'à devenir la prière que nous prononçons. Parce que la prière n'est pas effet, n'est pas une activité religieuse, mais la prière, c'est la vie de l'intercesseur. C'est ce que nous devons être. Un sorcier discipliné, il est capable de détruire un intercesseur indiscipliné, et j'ajoute, ignorant. Parce que les problèmes des intercesseurs, des hommes de prière, femmes de prière, c'est aussi le manque de connaissances. Et Dieu le dit au travers de la bouche du prophète Osée 4 et 6, « Mon peuple est péri par manque de connaissances. Sois dans la chambre haute, mais va à la prière, et sois informé. Parce que la connaissance éclaire notre foi, et éclaire aussi nos prières. » Alléluia. Montre-moi la qualité des connaissances que tu as par rapport à Dieu. Je te montrerai ta dimension spirituelle. Vous allez dire, mais cela, tu la lèves où dans la Bible? La parole de Dieu, nous trouvons dans le livre des Juges, nous trouvons un intercesseur, permettez qu'on appelle Samson. C'est un appelé de Dieu, consacré, mis à part pour servir Dieu. Et l'espérance de tout le peuple repose sur ses épaules. Mais pendant un certain moment, nous trouvons cet intercesseur-là être indiscipliné. Il commence à disperser l'onction de Dieu. Il commence à s'amuser avec l'onction de Dieu. Bien-aimé, on ne s'habitue pas à l'onction. On ne s'habitue pas à la présence de Dieu. Si tu perds la vie de discipline dans l'intercession, Le diable n'a pas de cesser le feu. Il est capable de te détruire tout en étant dans la chambre haute. Voilà pourquoi Samson, qui signifie petit soleil, lui qui est appelé à porter la lumière pour toute une nation, mais il est terrassé par une femme arrolée par les Philistins. C'est une sorcière arrolée, j'exagère, pour détruire les ouais de Dieu. Et il faut voir ses méthodes. Vous allez comprendre mon langage. Les méthodes qu'il utilise nous laissent voir que ce n'est pas pour construire, mais c'est pour détruire. Alléluia. Bien-aimés, même dans la prière, nous devons nous rassurer que nous sommes disciplinés. Amen. Nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous avons lu, à partir du 25e verset, la parole de Dieu qui nous présente le parcours de l'homme de Dieu Paul et le parcours de l'homme de Dieu Silas. Ils sont en train de proclamer la bonne nouvelle. Ils sont en train de guérir le malade à leur passage. Je prie que tu accompagnes nos ministères aussi avec des signes et des prodiges. Alléluia. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis déjà Amen. Alléluia. Vous savez, cet endroit ici, c'est un endroit stratégique pour Dieu de guérir son peuple. Ce n'est pas pour remplir les programmes de l'Église. C'est pour que le peuple de Dieu arrive à cet endroit et qu'il recouvre la guérison dont ils ont manqué ailleurs. Moi, je crois à ça. Je ne sais pas pour toi, je respecte ta foi. Mais je crois que Dieu est capable. La solution n'est pas seulement entre les mains des sorciers. Mais la solution, il est entre les héros et les héroïnes qui ont accepté de marcher avec Dieu. Alléluia. Et notre Dieu, il est immuable, il ne change pas. À cause de la souffrance, les gens doutent encore de Dieu. Est-ce qu'il est capable? Alors Paul, qui vient de prêcher, il vient de proclamer l'évangile. Mais pendant un certain moment, il se retrouve jeté à prison. Et ça nous arrive, bien-aimés. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais vous vous retrouvez quand même dans la souffrance. Je viens dire à un serviteur, persévère. Alléluia. Même après avoir prêché et que tu te retrouves à prison, il faut encore persévérer même dans la prison. Et dans la prison, la prison n'a pas été un obstacle pour eux de ne plus annoncer l'évangile, de ne plus vaquer à la prière. Ce que j'aime, c'est que quand ils sont jetés à prison, les mains, les pieds liés, le fait que les mains et les pieds sont liés, ce n'est pas pour autant dire que la bouche aussi est liée. Tes mains peuvent être liées par des soucis, par des difficultés, mais tu as encore une bouche pour dire « Buona metena ». Alléluia. Il arrive des fois que la vie nous donne des coups. Mais si nous avons encore une opportunité de dire, Seigneur, Oza monene, koleka nyoso. Oza monene, koleka basusi nanga nyoso. Même en prison, il faut avoir ce courage-là. Et je crois que cela ne vient pas de l'homme. Ça, c'est le don de l'Esprit qui fortifie ses serviteurs, même dans la souffrance. Alléluia. Paul a commencé à louer la louange. Je me souviens de ce passage, quand le peuple de Dieu loue, alors Dieu descend dans la louange pour délivrer son peuple. Je me dis, quand les prisonniers attendaient la louange, ils se disaient, mais je viens de faire 5 ans ici dans cette prison. Quelle est cette louange qui retentit à mes oreilles? C'est chant nouveau même dans la souffrance. Je prie que même dans la souffrance que Dieu te donne une louange. Dieu n'est pas Dieu quand tout va bien. Même quand tout va mal, il reste Dieu. Ça veut dire littéralement, il est digne d'être loué dans toutes les circonstances. Alléluia. Je vais vous prêter chez Choral les cantiques qu'il chantait. J'aime chanter. Quand il chantait, Eh, oh, 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 La parole de Dieu déclare, il y a eu un grand tremblement et juste au point où les forteresses de la prison ont été ébranlées. Je prie que Dieu, qu'il secoue le chêne qui te lie à partir des fondements. Parce que quand tu veux apporter la solution à nos problèmes, il s'attaque à la source, à la souche. Alléluia. Et le geôlier qui était à la garde ce jour-là, vous savez, la même personne qui vous a mis en prison, il peut être la même personne que Dieu va utiliser pour te servir. Car Dieu descend à la louange pour nous secourir. Le geôlier qui était à sa poste comme sentinelle ce jour-là, à sommeil, il a demandé qu'on mette de la lumière. Matthieu chapitre 5, la parole de Dieu déclare, « Vous êtes la lumière et le sel. » Je prie que Ésaïe chapitre 8, le verset 23, la parole de Dieu déclare, « Le ténèbre ne régnera pas pour toujours. » Qu'importe le temps que ta souffrance a pris, je prie qu'on mette de la lumière dans ta vie. Et ce n'est pas une autre personne qui va le faire, si ce n'est que Jésus-Christ qui est déjà mort et ressuscité. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'autre lumière que de prendre conscience de la lumière qui est à Jésus-Christ. Il a demandé qu'on mette la lumière. Et il s'est précipité. Il rencontre les chaînes sont déjà tombées. Et là, il perd. Et j'aime sa question. Il dit, que dois-je faire pour recevoir le salut? Et on lui a dit, tu dois seulement accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et il a été baptisé. Je me dis, est-ce la matinée ou est-ce cette nuit-là? Mais il a été baptisé ce même jour-là. Lui et avec sa famille. Quelle délivrance, même pendant la souffrance, il y a la bonne nouvelle qui arrive même à nos ennemis. Alléluia. Celui qui était la sentinelle, le garde, il est transformé en médecin. Il commence même à porter les traitements. Il a passé l'air plein cette nuit-là. Celui qui était le gardien ce jour-là, il a été transformé en un serviteur. Il a commencé à les servir, à manger. Je prie que mon Dieu te donne cette grâce. Alléluia. Mais cette grâce-là n'arrive pas comme un cadeau de Noël. Cette grâce-là a commencé dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Peut-être que j'utilise un langage que tu n'aimes pas, mais je suis venu te dire, il est temps de vaquer à la prière. Alléluia. Même au milieu des chaînes, nous devons vaquer à la prière. Avec confiance que c'est lui qui nous a accompagnés. Même ici, dans la prison, ce même Dieu, il est à nos côtés. Joël, chapitre 2 que nous avons lu, et j'aime ce passage, la parole de Dieu qui déclare, « Je vous rempousserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » J'ai prié que les années qui ont été dévorées dans ta vie, que tu es le restaurateur des brèches, qu'il restaure la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Je ne sais pas au courant de l'année que nous venons de finir, qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie. Mais je suis venu te rappeler qu'il y a un restaurateur. Alléluia, alléluia. Notre responsabilité, c'est de lui faire confiance, marcher par la foi et de vaquer à la prière. Parfois, nous voulons que lui prie pour nous, alors que lui nous attend dans la prière. Il est assis à la droite du Père pour intercéder à notre faveur, mais il veut que nous puissions rester à prière. Prier sans cesse. Alléluia. Il dit, je vous rempousserai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Jec et l'Asile, et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est dans un contexte particulier, mais nous rencontrons ici que c'est Dieu lui-même qui parle d'avoir envoyé une grande armée pour ravager la végétation. C'est même Dieu, il sait que nous avons besoin de la végétation pour vivre. mais c'est lui-même qui a voir l'armée. Mais ce que j'aime, il a déjà donné la solution. Il dit, je vous rembourserai ces années-là. Alléluia. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Qu'est-ce que c'est beau de manger et de se rassasier? Aujourd'hui, on commence à manger, on se dit, est-ce que ne me coule, si y a coule? Parce qu'on mange avec une anxiété permanente, avec des stress permanents. Mais c'est dans ces moments de douleur, de peur, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, que le restaurateur est au rendez-vous. Alléluia. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Maintenant, c'est après cette restauration-là que Dieu enverra. Il promet envoyer l'Esprit de Dieu. Après cela, je repentrai mon esprit sur toute chair. Ne vous précipitez pas dans la chambre haute pour demander le Saint-Esprit, la visitation, la plénitude, le baptême de l'Esprit, sans avoir été restauré d'abord. Il faut que nos cœurs soient restaurés. Alléluia. Dieu commence d'abord par nos cœurs avant de toucher nos entreprises. Je sais que tu es venu avec des sujets spécifiques, mais je suis venu te rappeler que le premier territoire que tu désires toucher et restaurer, c'est d'abord ton cœur. Dieu est intéressé à changer nos vies, à restaurer nos cœurs, à nous donner une nouveauté de vie. Et cela d'abord à partir de nos cœurs. Voilà pourquoi nous devons d'abord nous rassurer que nous sommes restaurés et nos familles, nos entreprises seront ensuite restaurées. Ma deuxième partie, par rapport à l'attachement, comment maintenant être attaché à Dieu, en dépit des souffrances, en dépit de toutes ces peines que nous rencontrons. Nous devons savoir, bien aimé, que être attaché à Dieu implique trois choses. La première des choses, être attaché à Dieu implique un choix. Personne ne peut pas t'attacher à Dieu si tu ne le choisis pas. Être attaché à Dieu implique d'abord un choix personnel à faire. Et ce choix personnel, ton pasteur ne peut pas le faire à ta place. Voilà pourquoi le salut est personnel. Le salut implique le choix que chaque personne fait. J'aime ce passage en Romains. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Parce que si on mettait des catégories de personnes, on n'aurait pas accès. Mais c'est quiconque. Ça veut dire, je dois choisir de pouvoir être attaché à Dieu. La deuxième des choses, être attaché à Dieu implique un risque. Il faut risquer sa vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de dire aux 12 que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, il y a intérêt de faire un renoncement à soi-même. Tes priorités, tes attachements, tes affections. Il faut payer ces risques-là. Il faut risquer sa vie pour Christ. Et je vous assure qu'au risque pour Dieu, Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Quiconque fait le risque d'être attaché à Dieu, il finit par rentrer avec un témoignage. Demande-moi qui a risqué d'être attaché à Dieu et qui est rentré sans témoignage. Quiconque risque pour être attaché à Dieu, il finira par rentrer avec un témoignage. Voilà pourquoi Habakkuk chapitre 2, il dit, écris la prophétie, grave-la, parce qu'elle finira par s'accomplir. Qu'importe l'état que cela prend, si nous sommes attachés à Dieu, bien-aimés, les ciels finiront par être ouverts. Alléluia. Je vais réconforter quelqu'un qui vient de faire toutes ces années-là à prière pour exiger. Le pasteur, il est bien tout qu'on a fait, mais on a déjà fait cela. Mais je suis venu nous encourager en disant, persévérons encore. Alléluia. Parce que celui qui a le dernier mot sur nos vies, c'est Dieu lui-même. La troisième des choses, être attaché à Dieu exige un prix à payer. Je répète, être attaché à Dieu exige un choix personnel. Être attaché à Dieu exige un risque. Être attaché à Dieu exige un prix à payer. Parfois, nous suivons Dieu non pas avec sourire, mais c'est aussi avec les larmes. Parfois, nous ne connaissons pas l'itinéraire de là où il nous amène. Mais ce que j'aime est qu'il est le chemin. Toi, tu as besoin qu'il te montre d'abord la finalité. Lui, il te dit, viens, suis-moi. Tunaenda wapi? Viens, suis-moi. Alléluia. Bien-aimé, être attaché à Dieu exige notre confiance. Parfois, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Être attaché à Dieu, bien-aimé. Nous vivons dans un monde où les gens sont fatigués de Dieu à cause des difficultés. Mais il y a un autre élément auquel je vais revenir au cours de la semaine, les Silas de Dieu. Car Dieu, simple silassier, le non-exaucement de nos prières, même dans ces Silas, Dieu, il n'a jamais été démissionnaire, il est présent. Il est avec nous. Le monde est fatigué de Dieu. Le monde est fatigué de nos prédications. Le monde est fatigué de la prière. Et aujourd'hui, on se cherche des raccourcis. Le monde nous propose des alternatives. Mais j'aime aussi l'invitation de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je sais que tu es venu, nous sommes tous ici, mais chacun dans son contexte particulier. J'aime dire, derrière les beaux costumes, il y a parfois des larmes que personne ne peut voir. Mais il y a aussi ces dieux-là des abandonnés. Alléluia. Parce que Mungu akwake na yalala yabatu. Et Dieu te connaît par ton nom, il est capable de changer ta situation. Alléluia. Ne sois pas fatigué de Dieu. Reste attaché à Dieu, affectionné à Dieu. Tout ce que Dieu fait, accompli dans nos vies. S'il t'a donné la guérison au courant de l'année 2025, tu as eu à témoigner ici et tu vas témoigner. Si Dieu t'a donné ceci ou cela, tout cela a pour objectif de nous amener à être attachés à Dieu. Alléluia. Il y a des langages dans la Bible, les signes, les prodiges, le miracle. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous soyons attachés à Dieu. Si ce que Dieu a fait dans ta vie te repousse loin de Dieu, comme à Luc 15, le fils prodigue, tu as été béni dans la présence de papa et quand tu as l'héritage, tu t'as fui loin de papa. C'est que tu n'as pas compris la visée de Dieu. Dieu a fait cela, te donner l'héritage pour que tu restes attaché à papa. Alléluia. Combien déjà ensemble nous avons vaqué avec eux dans la prière, mais quand ils ont été bénis, ils se sont détournés de Dieu. Et j'aime ce que Dieu donne comme vaccin au peuple d'Israël à Deutéronome chapitre 8. Il a pris le soin de leur donner le vaccin. Il dit, quand vous serez arrivés à Cana, vous mangerez, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Quand vous aurez, vous prendrez conscience que le bétail, le menu bétail, se sont augmentés en nombre. Et dit, gardez vos cœurs de ne pas faire quoi? De ne pas oublier. De ne pas, autrement dit, être détaché de Dieu. Restez toujours attaché à Dieu. Alléluia. Je sais que l'année ici, nous allons les réclamer par la foi que Seigneur ne permet pas que l'année ici soit comme l'année précédente. Mais je viens nous poser la question. Quand Dieu t'aura béni, est-ce que tu resteras attaché à Dieu? Est-ce que tu resteras encore dans sa présence? Parfois, le problème n'est pas d'être attaché à Dieu, mais parfois, le problème se situe au niveau de celui à qui on est attaché. Je répète, parfois, le problème n'est pas d'être attaché, mais le problème, parfois, c'est à qui tu es attaché. Je répète, parfois le problème n'est pas d'être attaché. Pourquoi? Parce que je sais que toute personne est attachée à quelque chose. Voilà pourquoi je remets le B de la question. À qui suis-je attaché? Il y a des gens qui sont attachés à des personnes. Il y a des gens qui sont attachés à des choses. Keiki kikapotea nimekufa. Uya katoka nimekufa. À qui, bien-aimé, nous serons attachés l'année 2026? Je nous donne une orientation, soyez attachés à Dieu. Il est celui qui ne déçoit jamais. Alléluia. Et dans la vie, il y a des personnes que nous devons considérer et nous y attacher. Mais aussi dans la vie, il y a des gens que nous devons regarder à distance. Dans la vie, il y a des personnes à garder. Et dans la vie, il y a des personnes à regarder. Et Ruth, la Moabite, elle nous enseigne cela. Elle a rencontré la belle-mère. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a eu la révélation que cette dame, elle a été vivant. Comme les intercesseurs aiment le dire, « Mungwana est ici ». Bien-aimée Ruth, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Parce qu'elle vient de loin d'une nation païenne. Elle a rencontré une dame qui a Dieu. Bien-aimée, dans la vie, il y a des personnes, vous trouvez qu'elles vous poussent vers l'excellence. Je parle aux intercesseurs. C'est une semaine particulière, on va parler un langage épais particulier. Supportez-moi. Amen. Dans la vie, vous savez, chaque personne est accompagnée, les physiciens appellent ça, par un champ magnétique. Et les hommes spirituels appellent ça une force spirituelle. Il y a une personne que tu peux fréquenter 5 minutes, tu sais que tu es dépouillé. Et il y a une personne que tu peux fréquenter, ces 5 minutes-là, tu réalises que tu es complet. Et Ruth a rencontré Naomi. Elle dit, je vais rester accroché à cette dame ici. Alléluia. Alors je pose la question, à qui es-tu attaché? À qui suis-je attaché? Et si tu es mal attaché, il est à... Nous sommes encore au début de l'année, il est temps de revoir nos relations. Alléluia. Vous savez, quand on vient dans l'intercession, on ne vient pas seul. Quand on est en famille, toutes ces relations nourrissent notre spiritualité et notre foi. Nous devons nous rassurer que nous sommes attachés à de bonnes personnes qui vont nous encourager à vaquer à la prière. Alors, qu'est-ce que signifie être attaché, pasteur? Être attaché, ça veut dire se mettre sa confiance à Dieu et d'une manière délibérée et que ça soit Dieu le fondement de nos vies. Et vivre l'intimité personnelle avec lui dans toutes les circonstances. Alléluia. Que Dieu soit la fondation, le fondement dans toutes les circonstances que nous restions attachés à lui. Je finis ce partage en nous proposant le texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43. Le verset 18, la parole de Dieu déclare, « Ne passe plus aux événements passés, et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Telle est ma prière. Je prie que nous puissions marcher avec Dieu, même dans la souffrance, et que nous mettions nos mains dans sa main, les mains qui ont été percées. Par confiance, c'est évoqué à la prière en disant, il mettra un chemin même dans le désert. Je ne viens pas proclamer aujourd'hui que notre souffrance comme Congolais, population de Goma, notre souffrance est finie. Mais je viens nous dire, même dans la souffrance, nous devons avoir confiance à Dieu, évoqué à la prière. Même dans la souffrance, il est capable d'effrayer chemin là où c'est fermé. Mais il y a notre responsabilité. C'est de pouvoir dire, Seigneur, je m'engage aussi à rester attaché à toi. Qu'importe la souffrance, qu'importe la douleur, mais j'aimerais que tu me tiennes la main et que tu m'amènes à bon port. Nous allons nous mettre debout, évoquer à la prière pour quelques minutes. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu a déposé, imprimé à ton cœur. Peut-être un langage non familier que tu n'aimes pas, mais je crois que le Saint-Esprit t'a parlé juste une phrase et qui est l'objet que tu dois reformuler comme un sujet de prière. Je voudrais que tu t'engages à cela et dire, Seigneur, aujourd'hui tu me demandes d'être attaché à toi malgré la souffrance. Et quiconque s'attache à toi, il finira par rentrer avec un témoignage. Et tu promets rembourser les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je prie que tu restaures aussi ma vie. Il y a étude de la restauration. Ulisema na poshindwa nikuite hivi leo na kuita nisiki. Ulisema, ulisema, na kushindwa nikui. Hivi leo, na kuita nisiki. Usiache niende, usiende mbali nami. Usiniache peke yangu, Mungu wangu, uniongoze, 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 yeah. Bado nakuhitaji, uniongoze, Yesu. Kiongozi mwema, moyo wangu nakuhitaji, niongoze nivuke salama, Mungu wangu uniongoze. Est-ce que tu peux faire de ces cantiques ta prière? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, je vais être orienté, guidé, éclairé par toi. Dans cette traversée en désert, dans ces moments de douleur, de désespoir, tu viens d'envoyer ta parole, Seigneur Père, pour me rappeler ma responsabilité de pouvoir te faire confiance, qu'importe les moments, qu'importe les situations. Tu viens de me rappeler, Seigneur, de pouvoir vaquer à la prière, en dépit de la douleur, en dépit des situations. Parce que tu es Emmanuel et tu es à mes côtés. Et avec toi, on n'échoue jamais. Tu es le Dieu à mes côtés, Seigneur Père. Tu es le Dieu qui a marché avec nous. Merci, Seigneur Père. Merci pour cette orientation. Merci pour ces rappels. Aujourd'hui, tu n'es pas venu nous prêcher, nous rappeler une nouvelle chose, une révélation. Mais tu es venu nous rappeler ce que nous connaissons, mais que nous devons mettre en pratique. Tu es venu appeler chacun de nous de pouvoir vaquer à la prière. Parce que quand tu es arrivé au temple, ce que tu voulais rencontrer là, ce n'est pas ce que tu as rencontré. Que ma maison sera appelée maison de prière. Tu connais la souffrance de ton peuple. Tu connais la souffrance de ma soeur, de mon frère. Seigneur, tu es au rendez-vous. Même dans ton silence, même quand tu sembles silencieux, pourtant tu es là. Voulons apprendre à te faire confiance, Père Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu t'es lassé de Dieu. Tu as désespéré. Oui, parce qu'en désert, on se pose des questions. Il y a un désespoir. Mais nous devons être focalisés à Dieu et garder l'espoir. Parce que l'espérance meurt les derniers. Je me dis que tu pries et que tu dises à Dieu, que tu t'engages à nouveauté de vie. Dire, Seigneur, je m'engage cette année de te faire confiance. Je m'engage cette année de te chercher de tout mon cœur. Par la prière, au travers de ta parole, je vais te chercher. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez avec tous vos cœurs. Tu le dis à chaque 4-8, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Nous nous engageons, Seigneur, à nous approcher de toi. Non seulement pour ce programme de 14 jours, même dans nos moments d'intimité, nos moments personnels, nous voulons nous engager à toi, Père. Oulisema na posindwa nikuite evile.
Parole. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis ton serviteur et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.